Europe 1, ça vaut tous les câlins.
En me plongeant dans les archives, je vous raconte l'année 1990, en 5 épisodes, et voici le premier. Cette année-là, le TGV bat des records. L'Angleterre n'est plus une île. Une femme s'impose dans le monde de la voile. Et on verse une petite larme, parce que la Deudeuche, c'est terminé.
1990, Ondelat raconte sur Europe 1.
La nuit du 31 décembre 1989 au 1er janvier 1990 est un moment particulier. On entre dans une nouvelle décennie.
Les années 80 sont mortes, vivent les années 90. C'est sans nostalgie ou presque que les Français ont franchi le dernier palier avant le troisième millénaire. À Paris, le Lido, le Crazy Horse, l'Alcazar ont été pris d'assaut par les noceurs. Et après tout, s'offrir une soirée torride alors qu'il gèle à l'extérieur, c'est ça le luxe.
Ça vous embête pas trop d'être en poste un 31 décembre à minuit ?
Non, nous assurons une mission de prévention pour les gens et la sécurité en même temps.
Les gens sont plutôt sympathiques ?
Sympathiques, mais un peu bruyants, quoi.
Bon an à tutti, i francesi.
C'est super, tout est beau, les feux, les lumières, Paris, et peut-être les filles après.
Et pourquoi venir à Paris? Il y en a ailleurs des filles et des lumières.
Mais les belles filles, c'est Paris. Bonne année à la France, à l'Europe, au monde.
Quel événement restera pour vous l'événement de 89?
Ah si je vous le disais, l'avenir de mon futur petit-fils.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour 90 aux gens?
La paix.
Bonne année tout le monde.
La paix est dans tous les esprits. Le mur de Berlin est tombé depuis à peine un mois et demi. Et en France, on a suivi pas à pas, après 34 années de règne, la chute du dictateur roumain Nicolae Ceaușescu. Le couple Ceaușescu a été fusillé par les révolutionnaires roumains 6 jours plus tôt. Et pourtant, à Bucarest, la nuit de la Saint-Sylvestre, ça n'est pas vraiment la fête.
La télévision roumaine a eu beau soigner son programme du réveillon, Bucarest n'avait pas hier soir le cœur à faire la fête. À minuit, les rues sont restées désertes. Armes au poing autour d'un char dans la neige boueuse, quelques soldats ont battu la semelle au point stratégique de la capitale. Hier, des rumeurs circulaient dans Bucarest. Des terroristes allaient profiter du réveillon pour tirer leur dernière cartouche. À la nuit tombée, les passants se sont fait rares. Vers 1 heure, 2 détonations ont mis en émoi le grand hôtel du centre-ville où réside la presse internationale. En fait, c'était un jeune un peu éméché qui faisait exploser des pétards. Un soldat l'a aussitôt plaqué à terre, la mitraillette dans le dos. Après les combats de la semaine dernière, les patrouilles militaires restent très nerveuses. Pourtant, la situation est parfaitement normalisée, mais l'appréhension demeure. Et les Roumains ont préféré passer le réveillon calfeutré chez eux, en famille, sans tapage et dans le recueillement. À Bucarest, Benoît Laporte, Europe 1.
Le lendemain, 1er janvier 1990, le reporter d'Europe 1 franchit la porte d'une famille roumaine pour raconter leur premier jour de liberté.
Qu'est-ce que vous avez mangé ?
Du rôti, du bistec, des salades de crudités, des oranges, des gâteaux aussi. Même de la crème de chantilly que des copains ont apporté de je ne sais où. Et qui est c'est bien rare. Nous n'en avons plus mangé depuis bien, bien longtemps. Sur le coup de minuit, on a interrompu le. On a éteint les lumières, on a trinqué, on a chanté, en se souhaitant une bonne et heureuse année et une liberté qui soit permanente.
Nous sommes tous ici dans ce réveillon. Le plus heureux du monde, je crois.
Et pour les enfants, est-ce que c'est un réveillon comme les autres?
Oui.
Qu'est-ce qui t'a apporté le Père Noël?
Un camion.
Un camion?
Oui.
Quelle couleur?
Le rouge et la cabine jaune.
Bonne année, la Moultiane.
Bonne année, la Moultiane.
À toi. Tu sais dire ça?
Moultiane.
Bonne année.
Bonne année.
Et cette nuit-là, pour la première fois, comme dans tous les pays libérés du joug soviétique, les Roumains peuvent écouter en direct à la radio un concert de rock, le concert de U2 en direct de Dublin.
6 000 fans émus jusqu'aux larmes qui chantent à gorge déployée pendant près de 2 heures, plus de 70 millions d'auditeurs au cœur de la nuit dans 17 pays, dont l'URSS, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est, U2 peut se vanter d'avoir grandiosement fêté le réveillon. Sans aucun des invités dont la presse britannique avait cru bon de les affliger, de Bob Dylan à Frank Sinatra, les quatre Irlandais se sont concentrés sur l'essentiel, leur rock gros son, fervent et charismatique. Conscient de son important auditoire inédit, Bono s'est abstenu de tout monologue partisan et s'est contenté de souligner qu'en 10 ans de carrière, son groupe était surtout fier d'avoir contribué à faire connaître Amnesty International. C'était bien joué, surtout si l'on se souvient que Moscou avait refusé d'en accueillir la tournée voilà seulement un an. Et d'autant plus que si pour les Dublinois, ce New Year's Day refermait une décennie qui aura vu 4 d'entre eux devenir le plus grand groupe de rock du monde, à l'Est, en revanche, il aura sans doute contribué lui aussi à marquer l'avènement d'une ère nouvelle. Dublin, Yves Bigot, Europe 1. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share.
One, chanson de U2 en 1990, chanson écrite quelques semaines plus tôt à Berlin, où le groupe était allé s'installer pour renifler l'atmosphère d'une ville où le mur venait de tomber, et c'est là qu'est né le 7e album de U2, Achtung Baby.
1990, Ondelat raconte sur Europe 1.
Question, est-ce que vous reconnaissez ce bruit? Eh oui, c'est le bruit d'une deux chevaux. En 1990, ça fait 42 ans que les Français en sont fous.
Moi j'adore. C'est dans moi quoi, c'est une voiture que j'adore. C'est incroyable.
Ça fait longtemps que vous avez celle-là?
Ouais, ça va faire 2 ans. C'est un modèle de 74. Je l'ai refaite entièrement, pièce par pièce.
Elle me rend service, elle est agréable l'été, elle est très ouverte et elle est très solide.
C'est la voiture française. C'est plus que toutes les autres voitures qu'on a pu rencontrer. Ça a marqué son temps, ça marque encore et on la rencontre partout, cette voiture.
L'idée de la deux chevaux remonte à 1937, à un certain Pierre-Jules Boulanger. Monsieur, j'ai une idée de voiture pour tous les Français. Je vous en prie, monsieur le directeur des études Boulanger. Exposez donc votre idée. Eh bien, je voudrais concevoir une voiture pour monsieur tout le monde. Une voiture où on entre à 4 et qui peut embarquer 50 kilos de patates. Elle n'a pas besoin d'aller vite. Hein. C'est pour les courts trajets. Intéressant, intéressant. Développez-moi ça sous le code TPV. Très petite voiture. Et faites-la robuste. Hein. Et surtout à petit prix. À cause de la Deuxième Guerre mondiale, il faudra patienter quelques années pour la voir naître, cette voiture. Sous la forme de la deux chevaux qui fait son apparition en 1948 au Salon de l'Automobile de Paris.
Avec l'automne, voici revenu le Salon de l'Automobile qui fête aujourd'hui son 50e anniversaire. Inauguré par le président de la République, qui marque ainsi l'intérêt qui s'attache à cette industrie, il proclame en ces temps de restriction le triomphe de la voiture économique. La deux chevaux Citroën, traction avant, est dans cet esprit l'un des clous de cette manifestation, après en avoir été le mystère, avec ses 4 places, ses 4 à 5 litres au 100, ses 60 à l'heure.
Elle porte, elle emporte, elle transporte. N'importe quoi, n'importe où, la deux chevaux Citroën.
Entre 1948 et 1990, 3 860 000 exemplaires de la 2 chevaux sont sortis des usines Citroën. Mais en 1990, il saute aux yeux que la 2 a pris un coup de vieux. Alors le 27 juillet, l'usine de Mangalde au Portugal, qui était la dernière à fabriquer la 2, sort son dernier exemplaire.
C'est triste de savoir qu'elles continueront pas. Voiture très, très agréable, surtout pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup les moyens. On peut partir en vacances comme ça, pratiquement sans préparation et sans frais. Voiture qu'on peut décapoter, qu'on peut... Vraiment très agréable à vivre.
Ah, mais je l'aime, bien sûr que je l'aime. Je suis à ma 3e ou 4e de chevaux. J'ai presque 60 ans. Elle a 106 000 km. Je me permets de faire Paris-Saint-Tropez en 10 heures de temps. Et je trouve qu'aujourd'hui, où on parle de limitation de vitesse, c'est une petite voiture qui est absolument extraordinaire. Je fais 6 litres au 100. Je n'ai jamais changé quoi que ce soit avec mes 106 000 km. J'ai les mêmes pneus, à l'avant comme à l'arrière. Un flic peut m'arrêter, ils sont impeccables. Vous vous rendez compte, on arrête cette production, il n'y avait pas plus économique. La France fout le camp. Il n'y a plus de France, il n'y a plus de chevaux.
Le Jerk de Thierry Hazard, numéro 2 du top 50 en 1990.
1990, Ondelatte raconte sur Europe 1.
Cette année-là, la SNCF n'a qu'un objectif, battre avec son TGV son propre record du monde de vitesse.
Si on fait une campagne d'essai comme ça, ça n'est pas seulement, mais c'est très important, pour atteindre une certaine vitesse, mais c'est pour vérifier qu'à cette vitesse, tous les éléments du système, la voie, les appareils de voie, la signalisation, la traction elle-même bien sûr, et le système de freinage, tout cela peut fonctionner à des vitesses très élevées. Et cela nous permet par conséquent d'avoir des marges de sécurité par rapport aux vitesses commerciales que nous sommes capables d'atteindre. Alors, vous savez que la SNCF, à l'heure actuelle, est de très loin le réseau de chemin de fer qui fait circuler à vitesse commerciale les trains les plus rapides du monde, à 300 à l'heure. Mais cette campagne d'essai nous confirme dans l'idée qu'il est possible d'aller au-delà. Et je pense que d'ici quelques années, on aura des trains qui pourront rouler à 320, 330, voire à la fin du siècle, à 350 km à l'heure, en vitesse commerciale.
Ce que ne dit pas Jacques Fournier, le président de la SNCF, c'est qu'il s'agit aussi et surtout de ne pas se faire doubler durablement par les Japonais. Les Japonais et leurs trains à sustentation magnétique qui filent à plus de 500 km/h. Tout au long du mois de mai 1990, la SNCF tente de passer ses 500 km/h. Sans succès. Jusqu'au vendredi 18 mai. Ce jour-là, les conditions météo sont idéales. Mais la tentative de record bute sur un impondérable.
Rien n'arrête donc le TGV à l'exception de deux chevreuils qui gambadaient joyeusement sur la voie au moment du départ du train. Un chasseur spécialisé a été dépêché sur place, il a immédiatement endormi le chevreuil et la rame du record a pu partir aux environs de 10 heures avec une quinzaine de minutes de retard. Une rame bleue du TGV Atlantique portant le numéro 325, la même rame utilisée depuis 6 mois pour réaliser tous les records du TGV. Dès le départ à Danjou, on a compris que tous les records du monde de vitesse seraient pulvérisés car la rame a tout de suite roulé à des vitesses supérieures à tous les précédents records. Après un élan de 50 km, peut-être un matin la vitesse de 515,3 km/h, c'est-à-dire une vitesse deux fois plus rapide que le TGV Sud-Est Paris-Lyon en exploitation commerciale. Lorsque la rame est passée en gare de Vendôme, il s'est produit un souffle impressionnant de quelques courtes secondes et déjà, la rame s'éloignait à un train d'enfer. Cette rame a bien sûr été spécialement aménagée pour le record, mais elle sera remise en état dans les semaines qui viennent pour rouler normalement sur le réseau TGV Atlantique. À Vendôme, Jean-Michel Salvatore, Europe 1.
Pour la première fois donc, le TGV dépasse la barre des 500 km/h et Michel Massignon, le conducteur de ce TGV Atlantique numéro 325, entre dans l'histoire.
Je suis rentré à SNCF pour conduire des trains, oui, c'était mon rêve, mais je ne pensais pas qu'un jour je battrais un record. Nous sentions que nous étions légèrement supérieurs à la marche d'il y a deux jours à Vendôme et nous savions à ce moment-là que nous allions faire un bon score. On n'a pas beaucoup de temps de penser, on s'occupe de son travail, on réalise ce qu'il y a après. Mais en fait, tout le monde fait un plat sur moi, mais ce qu'il faut féliciter, c'est tous les gens qui ont conçu ce formidable engin. On est entièrement en sécurité, l'engin est d'une très grande stabilité. Même à des vitesses supérieures à 500, on ne ressent rien.
On n'a aucune appréhension ?
Pas du tout, aucune.
Vous auriez pu aller encore plus vite aujourd'hui ?
Ah, aujourd'hui, non.
1990 est décidément une année historique pour le rail. Parce qu'outre ce record du TGV, fin novembre, les deux tunneliers français et anglais qui construisent le tunnel sous la Manche sont sur le point de se rejoindre. Côté français, on a choisi celui qui donnera le dernier coup de pioche et qui prononcera le premier « Nice to meet you ». Il s'appelle Philippe Cosette.
C'est un tirage au sort sur une sélection d'hommes représentant le nord de la France. Mais c'est tombé sur moi. J'ai été surpris quand mon directeur est descendu m'annoncer cette nouvelle dans le tunnel la semaine passée.
Comment ça va se passer pratiquement ? Bon, il reste un petit bout de tunnel à forêt quoi, avant que vous voyiez votre interlocuteur.
Oui, il reste plus grand-chose, il reste qu'une trentaine de centimètres. Je serai en tête, j'aurai deux collègues qui viendront m'aider, et puis de l'autre côté, ben, il y aura l'anglais qui est l'enfant de même.
Mais qu'est-ce que vous allez lui dire ? Vous avez déjà prévu quelque chose ?
Oh ben, je crois que ça va se faire plutôt sur le coup. Hein,
Alors dites-moi en anglais ce que vous allez dire.
Ah ben, je dirais peut-être la première chose, congratulations.
Europe 1, le plaisir d'écouter la radio. 1990, Ondelat raconte sur Europe 1.
Je suis toujours dans ma machine à remonter le temps. Je me suis arrêté en 1990. Le 8 mars 90 a lieu en France la 8e journée internationale des femmes, initiée quelques années plus tôt par le président Mitterrand. Et en 1990, à l'occasion de cette 8e journée internationale des femmes, on parle du fléau des femmes battues.
Qu'elles étaient 2 millions qui avaient tant de mal à s'en sortir.
Avec 5 mondes, vous avez 5 mondes à charge. En plus, on vous fout dehors. Parce que, comme dit la police, on vous protège plus au cou, quoi. Mais vous partez, vous prenez sur la figure. Bon, moi, je trouve ça révoltant. Je voudrais que les gens, la police vienne, sauf mon mari.
À l'occasion de cette 8e journée internationale des femmes de 1990, Europa organise un débat entre une militante du MLF, le mouvement de libération de la femme, et la secrétaire d'État Michèle André, qui est chargée des droits des femmes et de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Le journaliste Stéphane Paoli s'étonne qu'en 1990, on doive encore lutter contre autant d'inégalités.
C'est qu'on soit encore aujourd'hui obligé de faire une journée internationale des droits de la femme. C'est pour ça que je dis femme, comme on disait naguère, l'Europe.
Oui, on pourrait chanter sur ce thème. Non, mais je crois qu'il y a encore des inégalités vraies dans notre pays. D'emploi, par exemple. Les femmes sont plus au chômage que les hommes, beaucoup. De conditions de travail, quand elles sont salariées, elles sont moins bien payées. Non pas emploi égal, salaire égal, mais sur la moyenne.
Dans une proportion sensible, d'ailleurs, j'ai vu des chiffres 25%, paraît-il.
Voilà, qui fait 25-30% et qui est encore très lourde, et qui, dans l'Europe, ne nous place pas bien. Que sont-elles en politique ? Combien sommes-nous, quels que soient les endroits de décision ? Peu. Combien sont-elles dans l'administration ? Une femme préfet, deux femmes recteurs, on ne peut pas dire qu'il y ait encore une situation d'égalité vraie. Voilà. Donc, la journée internationale, c'est... C'est une façon de dire qu'il y a encore des choses à faire. Je crois que c'est aussi aujourd'hui une occasion de fête et de rencontre et de mise en commun, de discussion.
Je vais vous faire une confidence qui va vous choquer. Hein. L'homme que je suis, en apprenant qu'il y a une journée internationale des droits de la femme, j'ai eu le sentiment, vous savez, quand on va aux États-Unis et qu'on visite un peu les réserves d'Indiens. Je trouve ça un peu étonnant
non.
et singulier.
Que venez faire un tour à la Sorbonne cet après-midi ou allez-y tout de suite. Vous verrez qu'il y a des milliers de femmes et qu'ils ne sortent pas du tout d'une réserve.
Non, mais ce n'est pas du tout pour vous choquer que je dis ça. C'est que dans le monde où nous vivons, avec une communication qui est ce qu'elle est, je trouve surprenant qu'on soit obligé de faire une journée internationale de la femme.
Vous savez,
ça me surprend.
Vous êtes un des seuls qui nous donne la parole aujourd'hui dans les médias.
Alors, regardez cette journée des femmes, non pas comme une réserve d'Indiens, regardez-la comme une fête de la musique, par exemple. Regardez-la comme une fête, parce que c'est une fête et elle se manifeste partout. Vous verrez que c'est pas la même chose.
Et on fera ensemble la fête à la fin du journal tout à l'heure, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire.
Et que pensent de tout ça les jeunes adolescentes de 1990?
MLF.
M, ça doit veut dire femme, non?
M masculin.
Alors c'est le mouvement de libération des femmes. Vous en avez entendu parler?
Pas tellement bien. Il y a des femmes qui écrivaient les livres pour se battre, il y en a d'autres qui passaient à la télévision, il y en a d'autres qui faisaient des reportages.
C'est des chiffonnières, c'est vrai. Je sais pas pourquoi elles vont se battre.
Parce qu'avant, elles n'avaient pas les mêmes droits.
Qu'est-ce qu'il faudrait réclamer maintenant en 90?
Je crois que plus de femmes dans la politique, j'en ai presque pas vu.
Vous pensez que les hommes sont encore des machos?
Moi, mon père, oui. Dès qu'il rentrait, il se mettait devant la télé, les pieds croisés, puis c'est ma mère qui faisait tout, quoi.
Mais maintenant, les femmes disent « Non, je suis pas à tes ordres, engage une bonne, et puis voilà. »
Et tout ça donne le plus grand tube de l'année 1990, « Maldonne », un tube féministe porté par les trois chanteuses de Zouk Machine. En créole et en français, elles avertissent qu'elles vont laisser leur mec s'adonner à toutes les tâches ménagères. À l'été 1990, impossible de passer à côté de ce rayon de soleil guadeloupéen. Ce 45 tours qui a fait danser toute la France durant l'été 90 aura passé 9 semaines en tête des ventes de disques.
1990, Ondelatte raconte sur Europe 1.
En 1990, ce sont des Françaises, eux, qui signent les plus beaux exploits sportifs. Le 1er octobre 90, en cyclisme, on pousse un énorme cocorico. La Lorraine Catherine Marsal brille au championnat du monde sur route.
Elle est championne du monde. Catherine Marsal a remporté cette nuit au Japon le titre de championne du monde sur route. À 19 ans, la jeune Lorraine prend la succession de Jeannie Longo.
Une maison qui ne désemplit pas, un téléphone qui n'arrête pas de sonner. Depuis 8 heures ce matin, les Marsal fêtent une championne du monde de 19 ans. Tout avait été prévu pour suivre la course à la télévision en famille et en différé, sans connaître le résultat.
Tout le monde a regardé, j'ai été réveiller tout le monde parce qu'on s'attendait plutôt à la course des amateurs, comme le journal l'avait annoncé. Et puis en appuyant sur le bouton, j'ai vu que c'était Catherine, j'ai couru dans les chambres, j'ai réveillé tout le monde et tout le monde est arrivé. C'est la surprise. Hein. Le président François Mitterrand a d'ailleurs adressé un télégramme de félicitations à Catherine Marsal, qui vient donc de remporter ce titre. L'autorité très impressionnante que vous avez manifestée au long de ce championnat honore le cyclisme français, déclare le président de la République.
Quatre jours plus tard, une autre Française est à l'honneur, Christine Jeannin. Elle vient d'arriver sur le toit du monde. C'est la première fois qu'une Française parvient au sommet de l'Everest.
Ça se passe en 1990. Comment expliquez-vous que ça soit seulement aujourd'hui, en fait, qu'on trouve la première Française sur le toit du monde ?
Ça, je ne peux pas l'expliquer. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même eu des femmes dès 75. Il y avait des Chinoises, des Japonaises, une Polonaise et puis d'autres femmes avant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe extraordinaire avec moi, d'avoir profité, je pense, d'une très belle période de beau temps au moment du changement de lune, et puis d'être en pleine forme à ce moment-là.
Christine, vous vous y êtes repris à quatre fois. Vous avez fait quatre tentatives. Comment se fait-il ? Est-ce que les conditions météorologiques étaient mauvaises ?
Absolument. On a été prêts, nous, à partir du 12 septembre. On a fait trois tentatives, trois montées au col sud et une tentative à 8300 mètres avec Pascal Tournaire et Eric Descamps. On préparait tout le terrain pour l'ascension de Marc Bâtard qui devait coucher au sommet de l'Everest. Et puis, il y avait beaucoup de vent, il faisait très très froid. On est redescendu et on a profité de ce changement de lune pour redonner un assaut vraiment express vu que j'ai fait l'ascension en 31 heures. Donc je pense qu'on a fait vraiment un forcing et j'ai calculé à partir du 12 septembre, on a eu vraiment 4 journées de repos exactement au camp de base. Donc on a été vraiment, je pense, tout le temps à l'affût et prêt à la moindre éclaircie, au moindre, la chute du vent était très importante.
Et trois semaines plus tard, en novembre 1990, a lieu la fameuse grande course à la voile, la route du Rhum, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et le 8 novembre 90, l'arrivée du premier trimaran marque un tournant historique.
Ça y est, la ligne est coupée. La quatrième route du Rhum est gagnée par Florence Artaud.
Florence Artaud, 33 ans, est la première femme à remporter l'épreuve. Elle avait disputé les trois éditions précédentes, mais sans succès. La quatrième est la bonne pour celle qu'on appelle désormais la fiancée de l'Atlantique.
J'ai du mal à réaliser encore. Ça m'amuse beaucoup de me retrouver là ce soir, sachant qu'il n'y a pas un bateau qui est arrivé encore. C'est vraiment drôle. C'est vraiment une belle épreuve. Moi, j'ai passé des moments formidables en mer. C'est une course extraordinaire. Et tout le long, c'est dur, c'est tactique, c'est physique, c'est intelligent, c'est vraiment une épreuve magnifique jusqu'au dernier effort à faire pour le tour de la Guadeloupe. Moi, je suis très fière d'avoir gagné cette course avec pas mal d'avance sur des gens comme Poupon et Birch. Je suis très contente de moi.
La victoire de Florence Artaud est un exploit parce qu'elle ne devait pas être là. Les médecins lui avaient déconseillé de partir à cause d'une hernie discale. Et durant la course, elle a perdu toute liaison avec la Terre. Pendant des jours, elle a navigué sans bulletin météo, seule au monde. Et elle se paye le luxe de battre le record de vitesse de l'épreuve.
Moi, d'habitude, je vais beaucoup plus vite dans les conditions mauvaises. Là, cette fois-ci, j'ai levé le pied pour rien casser. Ça a été payant. C'est vraiment la réalisation de mes rêves, mais je crois que je réalise pas encore vraiment ce qui m'arrive.
Je pense que c'est d'avoir cogité, d'avoir réussi à garder mon self-control tout le temps, de faire ma course à mon rythme, sans absolument jamais m'occuper des autres. Moi, je considère qu'il y a 3 ou 4 jours où j'ai vraiment perdu du temps et où je pensais que tout le monde aurait ramarré, donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais finalement, en étant concentré sur ce que je faisais moi, de façon complètement réfléchie et en gérant bien mon temps et puis mon énergie qui n'était pas très brillante en fait, parce qu'au début j'étais crevée, au milieu j'étais crevée, après j'étais crevée. J'ai réussi à courir de façon plus intelligente et à faire à tirer les bons bords, à manœuvrer juste au moment où il fallait le faire et à ne jamais être surprise par les événements météo. Parce que même si j'avais pas de routeur et aucune information météo, je savais exactement ce qu'il y aurait comme temps à l'arrivée. Enfin, je savais, je sentais, je me disais, j'espère que je me trompe pas, parce que heureusement, je ne me suis pas trompée.
Et quand elle passe l'arrivée en tête, Florence Artaud reçoit l'hommage du célèbre navigateur Olivier de Kersauzon.
Je pense que d'abord, il y a eu un marin. C'est que Florence Artaud, on l'a vu courir longtemps avec de mauvais bateaux. Et comme elle avait le feu de la course, elle est partie à chaque fois coûte que coûte, en faisant des résultats qui ne pouvaient pas être très brillants. Et puis un jour, le marin a trouvé un sponsor. Le sponsor a joué le pilote et lui a donné les mêmes armes que les autres. Hein, c'est pas un armement, c'est le même armement que Fleury Michon, le même armement que Fujichrome. Hein. Et là, le pilote a exprimé son vrai talent.
La performance de Florence Artaud a fasciné la France de 1990. Et du coup, elle a droit à sa propre chanson, signée Pierre Bachelet.
Flo, c'est bien le nom que tu voulais. Toi qui ressembles à la marée sur les cailloux de Saint-Malo. Flo, sous tes paupières ultramarines, parfois je lis ou je devine la solitude des bateaux.
Pierre, t'es comme un rocher sur la lande. Tu ne bouges pas, tu te demandes où peuvent bien aller les rivières.
Chacun est fait comme il est. Chacun prend feu comme il peut. Mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance se retrouvent parfois. Chacun est fait comme il est. Chacun prend feu comme il peut. Mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance se retrouvent parfois. Chacun est fait comme il est. Chacun prend feu comme il peut.
C'était Flo de Pierre Bachelet, chanson hommage aux exploits de la navigatrice Florence Artaud. Et c'est ainsi que s'achève ce premier épisode consacré à l'année 90. Infini remerciement à Guillaume Maury et Julien Pichenet qui m'ont aidé à l'écrire. Réalisation signée Guillaume Vasseau. La suite de notre périple dans l'année 1990, dans le deuxième épisode d'Ondelat raconte une année.
Retrouvez Ondelat raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.